Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Quelles sont les innovations contenues dans la nouvelle loi, réglementant le secteur de la presse en RDC? Nous débattons de ce sujet avec Maître Charles Mouchizi, il est spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Maître Charles Mouchizi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service.
Je vous en prie.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce numéro d'Okapi Service. Jean-Marc Mantaki est à la supervision. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission. Et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les innovations contenues dans la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC? L'ONG Journaliste en danger, JED, en sigle, salue l'adoption par voie des ratifications par l'Assemblée nationale de l'ordonnance loi numéro 23/0209 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse d'information d'émission par radio, par la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC. Cette ordonnance loi, promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, remplace la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996, considérée comme obsolète et très répressive à la liberté de la presse. Quelles sont alors les innovations contenues dans la nouvelle loi qui réglemente le secteur de la presse en RDC? Maître Charles Mouchizi, ça c'est une avancée dans le secteur de la réglementation de la presse, de l'exercice au fait de la liberté de la presse en RDC avec la nouvelle loi qui a été promulguée au cours de ces mois d'avril.
Absolument, il y a énormément d'avancées par la promulgation de cette ordonnance loi. Non seulement sur le plan de la forme, mais surtout sur le plan du fond, et particulièrement pour ce qui est de son adaptation au contexte démocratique émergent de la République démocratique du Congo. Les premières innovations sur le plan de la forme tournent autour d'abord de la dénomination, de l'intitulé de ce texte. Ce texte dont l'intitulé est directement tiré de l'article 24 de la Constitution, a comme titre exactement ce que l'a voulu le constituant congolais. Et en ce moment-là, nous passons d'un texte qui fixe simplement les modalités d'exercice de la liberté de la presse, mais pour aller vers un texte qui réglemente non seulement ces modalités et va au-delà de ces modalités parce qu'il pose aussi d'autres principes, de développement du secteur médiatique. Sur le plan du fond, évidemment, nous avons à redire, notamment sur un certain nombre de dispositions. Mais pour la plupart de son contenu, pour la plus grande partie de son contenu, ce texte est véritablement une innovation, notamment pour ce qui est de la reconnaissance formelle des médias associatifs communautaires et confessionnels.
Et qu'est-ce qui distingue cette nouvelle loi, au-delà de ces deux dimensions que vous avez évoquées avec l'ancienne loi, la loi relative à la liberté de la presse de 1996?
À cette loi, elle tient d'abord compte de deux secteurs, sous-secteurs médiatiques qui n'étaient pas naguère considérés, notamment dans la loi de 1996. Il s'agit notamment de l'introduction des médias en ligne et de l'introduction des médias associatifs communautaires et confessionnels. Ces deux médias qui fonctionnent depuis plus d'une décennie dans ce pays ont fonctionné plus ou moins en marge de reconnaissance de loi. Et donc... c'est leur reconnaissance, leur intégration dans le corpus du texte marque quand même une évolution assez considérable, une adaptation au contexte de l'évolution du secteur, mais aussi le besoin de réglementer ce secteur, ces deux sous-secteurs, qui sont non seulement des secteurs professionnels très importants au sein duquel il existe des emplois stables et durables à protéger, mais au sein desquels aussi l'État peut attirer un certain nombre de ressources en termes de contributions aux charges publiques par la taxe et l'impôt. Ça, c'est très important parce que ne pas le reconnaître à un certain moment générer une sorte d'évasion fiscale parce que n'ayant aucune reconnaissance formelle du point de vue de la loi, elle ne se présentait pas comme entité redevable de l'impôt et de la taxe à proprement parler. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu quand même des arrêtés interministériels qui ont essayé de récupérer la situation, mais qui ont été prises aussi de la manière très maladroite, comme nous allons le démontrer. Et maintenant, justement, on est dans une phase très évolutive qui nous fait dépasser ces deux, trois arrêtés interministériels dont le but était juste de renflouer les caisses de l'État sans tenir compte des spécificités des médias auxquels ils s'appliquaient.
Mais est-ce qu'il y a aussi des innovations, des nouveautés sur en ce qui concerne notamment les statuts du journaliste, qui est journaliste et qui ne l'est pas?
Il y a un texte très particulier, c'est l'ordonnance loi de 81 qui porte le statut des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo, œuvrant au Zaïre, parce que c'est un texte quand même de 81, mais qui est aussi en passe d'être réformé. Il a fait objet de profondes discussions lors des états généraux de la communication et de médias qui ont été présidés par qui ont été organisés par le ministre de la communication et de médias et présidés par le chef de l'État. C'est un texte aujourd'hui qui est totalement revu, notamment du point de vue de son adaptation, du besoin de son adaptation au contexte national, mais aussi de l'intégration de ses spécificités dont j'ai parlé, notamment les médias en ligne, les médias associatifs et communautaires et confessionnels, mais tout particulièrement pour ce qui est de la rigueur qui doit caractériser l'accès à la profession, l'exercice de la profession et la fin de la carrière au sein des corps des métiers admis dans le secteur médiatique. Il faut aussi reconnaître que ce projet de texte qui va intervenir, je parle déjà du statut, mais c'est un projet qui est suffisamment avancé du point de vue de sa formalisation, reconnaît particulièrement les droits sociaux aux journalistes en tant que tels contractuels au sein de leurs médias et auxquels doivent s'appliquer les dispositions légales relatives à la protection socio-professionnelle.
Un autre problème, maître Charles Mouchizi, qui faisait débat avant l'adoption de cette nouvelle loi, c'était la dépénalisation du délit de presse. Est-ce que cette dimension a été également élaguée et on a trouvé une nouvelle solution, une nouvelle formule, réformulation concernant cette situation du délit de presse?
Sur cet aspect, le législateur est allé à reculons, plus ou moins. Il a avancé un tout petit peu pour ce qui est des autres catégories de médias, mais pour ce qui est des médias en ligne, il est resté constant pour ce qui est du régime des répressions, des infractions commises par voie de ces médias-là. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est l'article 36 de cette ordonnance-loi qui renvoie, encore une fois et très malheureusement, les infractions commises par les médias en ligne au régime du droit pénal, qui est le régime le plus connu et le plus rigoureux qui a été toujours décrié. Mais disons quand même que pour les autres médias, il y a cet allègement. J'ose croire que ça a été un élément qui a échappé au débat des techniciens du gouvernement et du Parlement. Mais tout n'est pas perdu. Je crois que à plus de 80%, ce texte marque quand même une évolution très très importante par rapport à ceux pour lesquels se sont battus les professionnels des médias eux-mêmes et les organisations de défense des droits de l'homme.
Oui, la loi a été adoptée et promulguée. Maître, dites-nous quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour son application. Parce que là, c'est bien beau de mettre en place, de promulguer la loi, mais quels sont les mécanismes qui doivent accompagner cette loi sur terrain, en pratique, pour opérationnaliser les contenus de cette nouvelle loi?
D'abord, il faut que la loi soit connue, l'ordonnance loi, il faut qu'elle soit connue. Et pour qu'elle soit connue, il faut que des journalistes eux-mêmes et qui ont l'habitude d'informer puissent informer l'opinion et s'informer là-dessus. J'étais en train de proposer dans une réunion que les médias publics, par exemple, publient chaque jour dans toutes les quatre langues nationales et en français, ne serait-ce qu'en bande passante, articles
par article.
Chaque jour un article. Et l'ordonnance loi n'ayant que 141 articles, en 141 jours,
disons en 3 mois et demi,
le texte aura été totalement vulgarisé. Dans un petit coin du journal ACP, dans un petit coin de la RTNC, etc. Et c'est fondamental que les médias publics fassent ce travail des pouvoirs publics, parce que la vulgarisation des textes, c'est d'abord les pouvoirs publics. Ensuite, bon, j'imagine que vous, les médias, disons privés, vous l'êtes ou vous l'êtes pas, je ne sais pas exactement comment vous qualifiez, peuvent s'approprier de ce combat pour faire en sorte que les lecteurs et les auditeurs aient au moins à lire dans leur colonne chaque jour ou entendre sur les ondes chaque jour au moins un article de cette loi. Et en 141 jours, le texte aura été totalement communiqué à l'opinion. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important encore à faire, c'est la prise d'un certain nombre de mesures d'application. Parce que lorsque vous lisez un certain nombre de dispositions, de l'article 1er à l'article 141, il y a quelques décrets à prendre, il y a quelques arrêtés interministériels à prendre, quelques arrêtés ministériels aussi et quelques décisions purement administratives au niveau du secrétariat général ou des secrétariats généraux intervenant d'une manière ou d'une autre dans le secteur. Et donc, il faut prendre ces mesures pour donner corps, pour donner vie à certains articles, notamment tout ce qui porte sur la fiscalité applicable aux médias associatifs communautaires et confessionnels. Là, vous lisez l'article 41 et l'article 71 de cette loi qui annonce justement l'arrivée d'un texte réglementaire qui doit être pris par le gouvernement afin de fixer de manière définitive le régime fiscal et parafiscal administratif, même sur le plan financier en ce qui concerne la taxe, et qui doit être appliqué à cette catégorie de médias qui ont la particularité de ne pas faire la publicité commerciale et de ne vivre que des subsides venant des bienfaiteurs. Et donc voilà à peu près les quelques mesures qu'il faut absolument mettre en place pour permettre non seulement à ce que le texte soit connu, mais pour permettre aussi à ce que il soit d'application réelle sur le terrain.
Oui, nous revenons à vous, nous vous gardons en ligne. Il est temps de donner la parole aux auditeurs. Nous allons partir au standard. Quelles sont les innovations contenues dans la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC? Nous débattons de ces sujets dans cette deuxième tranche d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laissez vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiokapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au CAPI Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Le premier auditeur, il nous appelle depuis la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, monsieur Roger, réduisez les volumes de la radio, écoutez-nous au téléphone. Ça risque d'altérer la qualité de la communication. C'est fait?
Oui, c'est fait déjà.
Voilà, c'est très audible maintenant. Allez-y, à vous la parole. On vous écoute.
Bonjour, monsieur Tati, et bonjour à notre invité, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bonjour.
Monsieur Tati, vous savez bien que la presse occupe vraiment les quatrième pouvoir dans notre pays. Je suis vraiment tellement content qu'en écoutant que les chefs de l'État viennent de la revue de. Ma question, je dois aller vraiment tout droit au but pour demander à notre invité. Nous savons bien que dans les secteurs de la presse, vraiment, il y a beaucoup d'habits. Hein, par rapport à quoi vous allez voir dans notre pays, il y a même des journalistes qui sont vraiment trop fans. Un journaliste qui est fan d'un tel politicien.
Des journalistes partisans.
Ouais, des journalistes partisans. Parfois, ça arrive un peu, lorsque vous écoutez même dans des débats, ils parlent, mais au lieu de s'intéresser vraiment à des choses qui sont vraiment intéressantes, vous allez voir que non, ils sont toujours là pour faire un peu promouvoir ou pour parler un peu de leur patron ou ce genre de questions. Et puis, je demande aussi à notre invité, par rapport à ça, nous savons bien que dans notre pays aussi, ça pose aussi, nous avons vraiment combien de journalistes. Parce que si vous regardez dans d'autres pays, vous allez voir, il y a autant de journalistes qui sont vraiment, si vous allez même sur Internet, où vous
reconnus officiellement, oui.
Reconnus vraiment officiellement, vous tapez, et puis directement, on vous donne presque tout l'adresse et les tels journalistes qui sont vraiment connus par rapport à ce qui se passe ici dans notre pays. Vous allez voir même sur l'Internet, même sur les médias, il y a même des journalistes là qui donnent un peu des propos là. Lorsque vous cherchez un peu de fouiller, et puis de revoir un peu ces gens-là, c'est vraiment compliqué un peu de retrouver. Et on a aussi prévu, on a aussi fait au moins quelque chose à ce niveau-là, parce que à ce genre-là, ça pose vraiment un grand problème dans notre pays. On sait bien que la liberté de presse aussi, ça compte, comme l'article 24 dit, toute personne a droit à l'information. Aujourd'hui, si vous regardez aussi, même les journalistes aussi subissent aussi, hein, par rapport à leur point de vue.
Oui.
Vous regardez aussi un journaliste qui donne un point de vue qui sont vraiment au contraire par rapport au pouvoir qui sont en place. De temps en temps, nous écoutons vraiment avec les gens des droits de l'homme qui nous disent toujours, il y a des journalistes peut-être à l'est de notre pays, à Koma, qui sont arrêtés, qui sont par rapport à leur point de vue. Est-ce qu'à cette loi, on a aussi prévu au moins quelque chose? Parce que les journalistes aujourd'hui subissent un peu ce genre de choses.
Oui, mais monsieur Roger, s'il vous plaît, bienvenue, pardon, vous appelez Roger Marcel de Kinshasa. Le journaliste, en principe, n'est pas censé donner un point de vue, hein, parce qu'il peut le faire dans un éditorial, au fait. Le journaliste, les faits sont sacrés, il donne les faits, et les commentaires, ce sont les auditeurs, c'est le public qui se fait une opinion. De toutes les façons, l'invité aura le temps de vous donner des plus amples.
Parce qu'il y a même un débat. Il y a même un débat là où lorsqu'on invite même les journalistes de faire un peu des analyses. Si un journaliste fait même une analyse en donnant un point de vue par rapport à ce qu'il voit, est-ce que les journalistes là peuvent être poursuivis? C'est ça aussi ma question que je demande à l'équipe.
Ah d'accord, monsieur Roger Marcel. Oui. Ok, je comprends. Le temps de donner la parole au deuxième auditeur et puis l'invité va vous répondre à votre préoccupation. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Oui, allez-y. On parle de la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC qui a été promulguée, je crois, le 4 avril de ce mois.
Je trouve un peu une petite confusion. Vous parlez d'une loi, mais n'évitez pas d'une ordonnance loi. Ce que nous connaissons, il y a une loi n'est pas une ordonnance loi. Vous comprenez? C'est une ordonnance loi, j'imagine que c'est le président qui a pris cette décision.
Oui, c'est une ordonnance loi, ça a été promulgué par le chef de l'État.
Non. Promulguer la loi, toute loi doit être promulguée par le chef de l'État.
Oui.
Mais toute loi n'est pas une ordonnance loi. L'ordonnance loi, c'est en quelque sorte les matières réglementatives, législatives, Mais dans des moments où, les, peut-être, je donne un exemple, des moments si exceptionnels, du genre état de guerre, état de siège, peut-être des vacances parlementaires aussi.
Oui, l'invité va nous éclairer là-dessus. Revenons sur le sujet, allez-y.
Voilà. Et puis, d'abord, ça prête à confusion là, et j'ai dit, c'est un autre aspect par rapport aux taxes que l'État peut percevoir auprès des entités et des médias actuellement qu'on accorde ces agréments-là, les médias. Vous connaissez, aujourd'hui, on a des radios qui pilulent, qui donnent l'information partout, même à l'intérieur du pays, même dans les secteurs, il y a des radios de secteurs, il y a des radios de territoires, de provinces qui ont des champs qui atteignent déjà dans ces champs-là. Et puis, il y a même les médias, les informations en ligne. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous mettez, ne serait-ce que votre vidéo sur la chaîne YouTube, vous savez l'engouement que ça fait. Et lorsque vous écrivez quelque chose, vous voyez, lorsque
sur les réseaux sociaux,
votre image, oui. Voilà. Tous ces aspects-là, à mon avis, devraient être pris en compte parce qu'il y a beaucoup de méfaits aussi sur ces aspects-là. Et vous savez, avec moi, vous n'ignorez pas que ce n'est pas l'innovation qui a apporté cette loi ici. Cette loi, moi, je pense que ça se limite, je ne sais pas à quel niveau. L'invité doit vraiment nous éclairer, ça se limite à quel niveau, parce que les chaînes qu'il fait allusion là, locales, ont toujours existé sur le plan radio, télévision, ils ont toujours existé, ils ont l'agrément de l'autorité, et ils émettent depuis la nuit des temps. Ceux qui créent, ils devraient aussi se soumettre à cette logique-là. Et surtout que ce sont des entreprises commerciales, je ne sais pas, ça devrait avoir des documents voulus pour créer son entreprise commerciale. Et les textes fixant des taxes aujourd'hui qu'on invite aux arrêtés, qui sont les décisions des ministres, moi je pense que c'est illégal. Parce qu'aucune taxe ou impôt dans notre pays ne peut être fixé par un arrêté. C'est des lois aussi qu'on doit prendre en compte, prendre des lois fixant des impôts, des taxes. Et tout c'est parce que lorsque nous partons dans des administrations aujourd'hui, ce sont des textes archaïques, même si on ne sait pas quoi comprendre. Des textes même fixés en dollars, on vous dit, pour telle infraction, il faut payer autant. Vous voyez, tout cela, ça n'arrange pas aussi que la loi puisse prendre toutes ces considérations-là en cause, et surtout pour les cas d'espèce, s'il s'agit d'une ordonnance-loi, et le président, à mon avis, peut s'expliquer pourquoi il a pris une ordonnance-loi, parce qu'on est pendant. C'est le Parlement qui doit prendre une loi dans le cas d'espèce, et surtout s'il y a une ordonnance-loi, que le Parlement aussi puisse accepter, mais c'est déjà inconcevable, parce qu'on n'est pas dans une situation de vacances parlementaires, ce n'est pas une ordonnance-loi, c'est une loi qui devrait être prise, et le président devrait se contenter de promulguer après vérification par la Cour constitutionnelle de la conformité. Voilà un peu la procédure.
Oui. Merci beaucoup, Gaston. L'invité, je pense qu'il va nous donner beaucoup plus d'éclairage sur ta préoccupation concernant la loi et puis l'ordonnance-loi. Et puis les nouveaux médias. Tu as l'impression que les nouveaux médias n'ont pas été pris en compte en dehors des médias en ligne dans cette nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC. Maître Charles, comment répondez-vous d'abord à Roger Marcel Est-ce que la nouvelle loi a pris en compte les réalités du paysage médiatique de la RDC? Parce que maintenant, il a dit selon son constat, il y a beaucoup de journalistes partisans et parfois certains journalistes qui avancent des analyses dans certaines émissions à la télévision sont parfois exposés à des interpellations et voilà. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la préoccupation de notre premier auditeur?
D'abord, il faut rappeler que le journaliste, il est un citoyen ordinaire, comme tout autre citoyen, comme moi, avocat. Je n'ai pas de privilège particulier. Je peux être poursuivi sans besoin de bénéficier de quelques privilèges que ce soit. Donc, le journaliste, il est citoyen ordinaire lorsqu'il commet des infractions dans la société, des infractions qui sont prévues et punies par le code pénal. Eh bien, il doit être poursuivi. Seulement, le bémol qu'il faut faire ici, c'est qu'il bénéficie d'une certaine protection lorsque les faits qui lui sont imputés au titre d'infraction sont commis dans le cadre de l'exercice de sa profession. Et la loi, ici, a apporté une innovation assez considérable. C'est celle de présumer toujours que le journaliste a été de bonne foi, non seulement parce que le journaliste peut se faire manipuler par ses sources sans qu'il le sache, mais il peut aussi avoir des limites d'analyse sur un certain nombre d'aspects où il n'a pas suffisamment d'informations ou de formations techniques.
Oui.
Et tout le monde peut avoir ce genre de limites.
Exactement.
Et donc le journaliste ne sera pas poursuivi sur le fond de présomption de sa mauvaise foi, mais il sera toujours présumé de bonne foi. Chaque fois que son infraction sera réputée d'ordre infractionnel, il sera poursuivi donc avec beaucoup, beaucoup plus d'allègement et beaucoup plus de brutalité par rapport à la loi de 96.
Oui, et voilà pourquoi, voilà pourquoi dans la loi aussi on fait allusion au droit de réponse, au fait.
Exact, et le droit de réponse est aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus central en termes de réparation morale de la victime. Parce que en ce moment-là, il y a une sorte d'équilibre rétabli dans le cadre de l'information publiée. D'une part, qui a engagé quelqu'un qui se sent préjudicié, mais d'autre part, de la personne préjudiciée qui dit « voici la vérité rétablie ». Et donc, dès que cet équilibre est rétabli entre le présumé infracteur et la prétendue victime, je crois que la justice est faite. La justice n'est pas seulement le fait des dommages et intérêts, encore que les dommages et intérêts dans ce pays, on sait combien ils sont difficiles à payer, dans une société où plus de 80% des professionnels sont déjà très pauvres et ne peuvent pas faire face à des charges financières particulières. Et je crois que c'est une avancée assez considérable, il faut la prendre déjà comme une disposition qui répond parfaitement au contexte congolais. Alors, maintenant, l'auditeur doit pouvoir faire la différence entre médias en ligne, médias sociaux et réseaux sociaux. Toutes les publications en ligne ne constituent pas des productions médiatiques. Et la loi définit très clairement ce qui doit être entendu par médias en ligne, et je le renvoie donc au chapitre 1er du titre 2 de l'ordonnance loi qui a été promulguée par le chef de l'État. Revenons sur la nature juridique de ce texte. Ce texte vaut loi. Pourquoi ? Parce que il a été pris par le chef, par le gouvernement, promulgué par le chef de l'État sur base d'une loi d'habilitation. Voté par le Parlement et renvoyé encore en promulgation par le chef de l'État, parce que le Parlement était présumé déjà absent pendant sa période légale constitutionnelle de vacances. Et donc, vu l'urgence, parce que l'urgence est l'élément caractéristique de toutes les lois d'habilitation, vu l'urgence donc, l'autorisation a été donnée au chef de l'État de ne plus attendre que cette loi connaisse les délibérations de l'Assemblée nationale, mais que ce texte soit directement promulgué comme ordonnance loi, quitte à l'Assemblée de le ratifier ultérieurement, ce qui a déjà été fait. Ça veut dire que c'est véritablement l'œuvre du législateur congolais.
Oui, et concernant les journalismes partisans, Roger Marcel a dit qu'ici en RDC, il y a des journalistes, lorsqu'il apparaît au petit écran, on sait directement qu'il y a tel acteur politique qui est derrière lui. Est-ce que la nouvelle loi a tenu compte de cette réalité ?
Cette réalité est bien prise en compte déjà depuis 2011 avec la loi organique du CESAC. Mais elle est renforcée évidemment par l'ordonnance loi de 2023, en cela qu'il y a des passerelles de collaboration qui sont établies entre l'institution publique de régulation des médias et le ministère sectoriel, ça veut dire le ministère actuellement, le ministère de la communication et médias. Et donc, il faut rappeler que tous les médias qui paraissent ou qui émettent en République démocratique du Congo ont l'obligation légale, de par la loi organique du CESAC, de présenter périodiquement leur programme avant de les diffuser, de les mettre en ligne, de les mettre à la disposition de l'opinion. Cette obligation est rarement respectée par les médias, parce que c'est pas une question de censure, c'est une question d'être conforme à la loi. La loi prévoit à ce que chaque média puisse diffuser au minimum 60 ou 65%, il faut bien que je vérifie les chiffres, pourcents de ces émissions axées sur la culture. Il faut bien que je vérifie, c'est sous réserve, hein, une bonne partie en tout cas de sa programmation axée sur la culture congolaise. Et rarement les médias produisent un programme qu'ils soumettent à l'appréciation de l'organe de régulation. Et ça, c'est une violation de la loi.
C'est vrai qu'on peut reprocher au CESAC aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment de capacité institutionnelle, opérationnelle, organique même, j'allais dire. Mais les médias doivent savoir que chaque fois qu'ils ne présenteront pas préalablement avant la diffusion leur programme pour recevoir un avis de conformité du CESAC, ils auront violé la loi. Donc il faut renforcer plutôt les questions de régulation là-dessus, mais tout est déjà pris en compte par la loi.
Merci beaucoup, Maître Charles Mouchizi. Nous rappelons que vous êtes spécialiste, hein, vous êtes expert en dépénalisation des délits de presse. Merci d'avoir été avec nous dans ces premiers volets de la deuxième tranche d'Okapi Service. Nous poursuivrons notre émission dans la deuxième partie de cette seconde partie de l'émission avec Israël Moutala, qui est le président de l'association en fait des promoteurs des médias en ligne. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine occasion, Maître.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous sommes dans la deuxième partie d'Okapi Service. Quelles sont les innovations apportées ou contenues dans la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC? Nous avons comme deuxième invité Monsieur Israël Moutala. Il est promoteur au fait du média en ligne 7/7.cd et président de l'association des médias d'information en ligne de la RDC. Monsieur Israël, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Merci de l'invitation, chers confrères, et bonjour à nos auditeurs.
Oui, parmi les grandes innovations, en fait, c'est la prise en compte hein, des médias en ligne dans la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC. Quel est le sentiment qui vous anime, au fait, le fait de la prise en compte de ces nouveaux médias qui émergent en RDC?
Ben, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. C'est l'aboutissement d'un combat, d'une lutte que plusieurs médias, plusieurs journalistes web ont porté avec moi. Et nous avons été plusieurs fois voir le ministre de la Communication et des Médias, qui avait promis de prendre en compte nos avis et considérations sur l'évolution du cadre normatif. C'était un homme de parole. Beaucoup de notre cahier des charges que nous lui avons soumis après d'âpres discussions ont été beaucoup de nos revendications ont été prises en compte, et donc pour nous c'est vraiment un motif de satisfaction de voir aujourd'hui que il y aura pas de confusion possible aujourd'hui entre le web journalisme et tout ce qui se fait sur la toile dans la sphère de l'internet. Il y aura plus de confusion entre les youtubeurs, entre les tiktokers, entre les facebookers, entre les twittos. Bref, il y a maintenant, entre les blogueurs, il y a maintenant une différence nette qui est faite dans cette loi, et c'est pour nous un sujet de satisfaction.
Oui, monsieur Israël, alors mais nous savons également que les médias en ligne hein, font face à plusieurs difficultés, comme c'est le cas dans les secteurs de la presse écrite et de la radio également. Les annonceurs se font rares et puis parfois c'est difficile. Hein. Est-ce qu'il y a certaines facilités qui vous est accordée dans le cadre de cette loi, nouvelle loi, pardon?
Sur cette loi, la question, lorsque nous étions aux États généraux de la communication et des médias, la question de la viabilité économique de médias avait été
abordée,
et il y avait beaucoup de débats là-dessus. Donc, il faut absolument, et je vois que dans cette nouvelle loi, il y a l'aide à la presse, notamment à la presse en ligne est consacrée. Et c'est pour nous encore une fois un autre motif de satisfaction parce que le statut d'intérêt public que nous faisons nous est reconnu. Et c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça que nous sommes en train de voir maintenant. Il faut des arrêtés interministériels entre le ministère de la Communication et des Médias et celui de Finances pour opérationnaliser ces aides à la presse. Mais il y a beaucoup de travail préalable à faire par rapport à ça. Les conditions d'éligibilité, l'établissement d'une mercuriale, une étude préalable du marché publicitaire, le profil des annonceurs. Et il y a un travail qui doit être fait en amont avec le CESAC. C'est à l'issue de ce travail, justement, qu'il y aura des arrêtés interministériels qui pourront, justement, opérationnaliser ça. Mais de notre côté, en tant que médias d'information en ligne, il y a aussi beaucoup de travail à faire parce que il faut absolument tenir la comptabilité. Si un média ne sait pas tenir une comptabilité, ça sera difficile d'accéder à ces aides-là. Mais il faudrait qu'il y ait des écritures comptables qui renseignent sur les difficultés financières, sur le type de difficultés financières, sur les grands postes de dépenses. Donc, il faudrait absolument tout ceci. Mais, encore une fois, cette loi est plus ou moins répond à plusieurs problématiques parce que la non-viabilité économique des entreprises, de certaines entreprises de presse, pas que numérique, vient parce que il y a déjà un péché originel. Ça veut dire que en amont, c'est une entreprise qui n'est pas viable, qui n'a pas un business plan, qui n'a pas de fonds de roulement et qui se lance dans l'aventure et après qui n'est pas accompagné par aucune banque, qui n'est pas accompagné, qui n'a pas de trésorerie et c'est très très difficile d'avoir des médias viables par rapport à ça. Or, dans la loi actuellement, j'ai vu que pour maintenant créer une entreprise de presse en ligne, il faut justifier d'au moins 6 mois de frais de fonctionnement, de frais de roulement. Oui, absolument. Et il faut avoir au moins un personnel d'au moins 5 personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, pour créer une entreprise en ligne, la loi dit il faut qu'il y ait un directeur de publication qui doit superviser 2 journalistes. Et donc, par rapport à ça, on comprend très bien que quand on a un directeur de publication et qu'on a 2 journalistes professionnels, on doit avoir aussi un webmaster, la personne qui va s'occuper de la partie technique
du site Internet.
Ouais, du site Internet. Et on doit avoir la personne qui s'occupe de l'administration, qui doit tenir la comptabilité, payer le personnel, donc couvrir les charges. Donc il faut au minimum disposer de cinq membres pour monter une entreprise de presse en ligne.
Donc c'est qui ouvre la brèche, monsieur Israël, c'est qui ouvre la brèche à la viabilité au fait des médias, des entreprises ou des médias en ligne.
Absolument, parce que on est au Congo. Quand vous ouvrez, vous dites voilà, il faut avoir un personnel au nombre de 5. Il faut payer l'impôt sur les revenus professionnels.
Et ils doivent avoir les contrats.
Il faut avoir des contrats. Il faut avoir
un bureau.
Il faut avoir un bureau. Il faut payer la connexion internet. Il faut payer l'électricité. Il faut payer l'eau, les loyers. Bref, vous voyez, ce sont des charges. On vous dit, il faut que l'entreprise de presse ait un compte certifié qui justifie justement de 6 mois pour couvrir ces charges. On a un salaire minimum au Congo. Voilà. Donc, c'est tout ça. Donc, ça veut dire que tu peux pas payer quelqu'un en dessous, je crois, de 120 dollars à peu près. Donc, voyez-vous, donc pour la masse salariale, déjà, c'est au moins... c'est autour de...
Dans les 1 500 dollars.
Dans les 1 000 dollars, mettons 1 000 dollars à peu près. Donc 1 000 dollars multiplié par 6 mois, ça fait 6 000 dollars. Donc ça, ce n'est qu'un poste budgétaire. Voyez-vous, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se lance maintenant dans l'aventure pour construire les médias. Donc il faut absolument bien penser à un projet médiatique, bien le ficeler, parce que quand on lance un projet médiatique sans capacité financière, ça donne lieu à beaucoup de dérives. Pourquoi ? Parce qu'un média pauvre engendre des journalistes pauvres, et parfois des journalistes pauvres...
Qui s'exposent à la manipulation, oui.
Peuvent s'exposer, peuvent se permettre de prendre certaines libertés, certaines distances par rapport aux règles éthiques et déontologiques qui nous est... Qui nous sont chers.
Dans cette émission, Monsieur Israël, nous donnons également la parole à la population. Donc, nous allons partir au standard, rester en ligne, le temps de donner la parole aux auditeurs. Quelles sont les innovations contenues dans la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC? Nous parlons de ces sujets dans cette seconde partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394 par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Jérémy Do, vous nous appelez depuis la ville de Bandundu, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à vous aussi, ma
soeur. À vous la parole, allez-y, on vous donne la parole.
Bon, je ne sais pas, cette ordonnance loi a été promulguée, bien sûr, c'est ça. Mais je ne sais pas, il y a tant de médias qui sont en ligne. Je peux prendre l'exemple de cette système précédente, l'avenir, tout ça. Bon, pour vous qui sont ma province, ou bien moi, je prends l'exemple de moi-même. Si je veux ouvrir ces médias en ligne, qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir ces médias en ligne? Ça, c'est ma première question. La seconde question, pour nous qui sommes toujours en province, nous avons des petits médias. Vous savez, à ce moment... des élections, il aura des médias qui se naissent de plus en plus, de plus en plus. Quelqu'un qui vient, il vous fait un média parce qu'il veut postuler par-ci, par-là, je ne sais pas. Avant que ces informations passent, est-ce qu'il y a un suivi pour ces informations ou quoi? Là, je vous salue, c'est Jérémy depuis Bandundu.
Merci beaucoup, M. Jéry. Excellente journée à Bandunduville. Donnons la parole cette fois-ci à Baudouin. Baudouin, lui, il est à Kasumbalesa. Bonjour.
Hey, bonjour Monsieur Sassi, merci aussi encore une fois de m'accorder la parole.
Il y a beaucoup de bruit ambiant là où vous êtes, allez-y quand même, allez-y.
Oui, oui, en tout cas je m'excuse, hein. Je suis dans un endroit vraiment trop
allez-y.
Vraiment, bon, comprenez, vraiment. Oui, oui, je salue vraiment la quintessence du sujet et les interventions de l'invité. En tout cas, je salue vraiment ce sujet. Et ma préoccupation était telle que comment faire pour régulariser ce secteur, surtout pour ce qui concerne les médias en ligne et les médias au niveau de l'intérieur du pays. Nous sentons vraiment beaucoup de bavures, surtout pour ce qui concerne les médias en ligne et à l'intérieur du pays. Je parle dans les territoires où le pouvoir n'est pas du tout représenté dans ces secteurs là-bas. Quand je vois, par exemple, les avocats, ils sont organisés dans leur ordre.
Oui.
Et avec cet ordre-là, vous sentez qu'il y a quand même du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. N'importe qui ne peut pas exercer dans ces domaines sans toutefois avoir été...
Le numéro d'ordre.
Oui, oui, sans toutefois avoir été enregistré au numéro, voilà comme vous le dites là. Maintenant, que faire aussi pour ce qui concerne les journalistes pour presser au niveau de l'intérieur? Parce que nous sentons ici, n'importe qui c'est journaliste et se met à publier n'importe quoi et à dire n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adopter les mêmes ordres comme c'est le cas avec les avocats? Pour vu que les journalistes professionnels vraiment de leur métier puissent se protéger contre ces bavures là-bas dans leur métier.
Merci beaucoup, M. Baudouin. Nous rappelons que c'est depuis Kasumbalesa que vous intervenez. Israël, commençons par Jérémy Do. Comment répondez-vous aux deux questions de Jérémy Do? Jérémy Do qui a voulu savoir au fait les conditions sur lesquelles repose l'ouverture d'un média en ligne, telle que stipulée par la nouvelle loi.
Ben, la nouvelle loi, elle énumère plusieurs conditions pour opérer comme média en ligne. Ça veut dire que la procédure se passe au niveau de deux institutions. La première institution, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC. Donc c'est lui qui va donner un avis de conformité par rapport aux exigences de la loi. Donc, et après, si vous avez cet avis de conformité, vous allez auprès du ministère, pour avoir le récépissé. Donc, on aurait peut-être voulu que la procédure reste entièrement au niveau du CESAC, sans faire intervenir le ministère, mais c'est pas grave, parce que la loi dit que si vous déposez votre avis de conformité et que au bout de 30 jours on ne vous répond pas, vous devez déjà vous exercer d'office. Là aussi, c'est une excellente chose qui est prévue par la loi. Et donc, je vais essayer d'énumérer un peu les conditions pour ouvrir un média d'information en ligne. Donc, il y en a à peu près une dizaine, mais je vais dire les plus importants. Donc, il faut un exemplaire des statuts de l'association, l'identité des associés, l'indication d'un ou de plusieurs comptes certifiés susceptibles de couvrir pendant 6 mois au moins les dépenses d'exploitation de l'organe, ce dont j'ai parlé en liminaire.
Précédemment, oui.
Oui. La production d'une carte de presse pour
les journalistes et autres personnels.
Pour les directeurs de publication. Un extrait du casier judiciaire du propriétaire et du directeur de publication. L'indication du siège social. Le certificat de nationalité du représentant légal et du directeur de publication. Les éléments de la ligne éditoriale. Le nom et la date de naissance, l'adresse du propriétaire et du directeur de publication, le nom du fournisseur d'accès, le nom du domaine .cd, le site internet, le numéro d'identification de sécurité sociale, le numéro d'impôt, le numéro d'identification nationale, le numéro du registre du commerce et du crédit immobilier, l'acte réglementaire. Donc voilà à peu près les conditions qu'il faut remplir. Ce sont ces éléments qu'on transmet au CESAC, quitte à ce que le CESAC vous remette ce qu'on appelle un avis de conformité pour vous dire que votre déclaration est conforme à la loi. Et vous prenez ça maintenant, vous allez au ministère de la Communication et des Médias, et là, on vous remet aussi maintenant le récépissé. Voilà les conditions pour exercer légalement. Et vous conviendrez que la plupart, c'est une nouvelle loi, mais même avant, beaucoup de médias, prétendument en ligne, ou même classiques ou traditionnels, ne remplissait pas un certain nombre de conditions émises par la loi.
Voilà. Oui, monsieur Israël, la deuxième question de monsieur Jérémy Do se recoupe à celle de Baudouin qui est à Kasumbalesa concernant la qualité ou le statut de journaliste qui preste surtout dans les médias en ligne à l'intérieur du pays, sans compter en fait la qualité d'internet qui laisse à désirer en dehors de Kinshasa. Est-ce que toutes ces dimensions sont prises en compte dans la nouvelle loi réglementant le secteur de la presse?
Oui, la nouvelle loi justement, elle tient compte de tout ça. Parce que la nouvelle loi, elle définit d'abord ce qu'un journaliste professionnel maintenant. Ça veut dire que n'est pas journaliste qui veut, n'est pas journaliste la personne qui s'autoproclame journaliste dans les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, la définition du journaliste est claire dans la loi. Donc, c'est toute personne qui est d'abord diplômée d'une école de journalisme, qui est reconnue par l'État congolais. Et cette personne doit avoir pour activité principale, régulière et rétribuée, ça veut dire payer, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Donc il faut d'abord avoir un diplôme. Mais toute personne qui n'a pas un diplôme dans une école de journalisme ou de communication, qui a un diplôme équivalent, peut être reconnue, mais après un stage de plus ou moins 2 ans à 3 ans. Pour ceux qui ont un diplôme de journalisme, eux aussi, il faut passer par 1 année à 2 ans de stage. C'est à l'issue de ce processus qu'on vous reconnaît la qualité de journaliste. Et quand on vous reconnaît la qualité de journaliste, vous prenez l'engagement solennel de respecter le code d'éthique et de déontologie
professionnelle.
Voilà. C'est à l'issue de ce processus qu'on devient journaliste professionnel et cela est attesté par une carte professionnelle. Et donc, aujourd'hui, et comme hier, il y a beaucoup de gens qui ont usurpé la qualité de journaliste. Aujourd'hui, n'importe qui, avec son smartphone, peut s'autoproclamer journaliste, tendre le micro, ne pas traiter l'information de manière journalistique, et l'opinion le considère comme un journaliste. Et c'est ce qui amène les dérives. Or là, maintenant, il y a un problème de sanctions, parce que l'usurpation de la cathédrale de Joliette est sanctionnée par la loi.
Oui, Israël, Maître Charles Mouchizi, l'expert en dépénalisation des délits de presse, nous a dit, maintenant, les grands défis, c'est la vulgarisation du contenu de cette nouvelle loi réglementant le secteur de la presse en RDC. Est-ce que vous avez déjà un projet dans ce sens pour vulgariser les contenus de la loi auprès des confrères qui sont dans les médias en ligne à travers les pays?
Oui, nous avons un projet de vulgarisation. On va expliquer cette loi, ces innovations, pourquoi elle est salutaire pour notre profession, notre belle profession. Il faut que nous la protégions contre des intrus de toutes sortes. Et pour ça, nous devons absolument vulgariser cette loi à la télé, par des itinérances. Il faut absolument la vulgariser. Mais avant de vulgariser cette loi, il y a un travail préalable qui doit être fait. C'est de redynamiser, c'est de donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication les moyens de sa politique. Il faut qu'il soit équipé en outils, il faut qu'il soit capacité, il faut qu'il soit capacité en hommes, capacité en finances pour absolument réguler notre sphère. Il y a aussi la question des organes d'autorégulation de la presse. La loi, il est prévu un congrès extraordinaire de l'UNPC. On espère que de ce congrès naîtra une nouvelle dynamique pour essayer d'assainir la profession et de nous protéger d'abord nous-mêmes en étant sévère envers nous-mêmes. Parce que la loi ici dit, conditionne presque les poursuites pénales après d'abord des actions disciplinaires au sein de la corporation. Mais si les organes d'autorégulation ne sont pas performants, cette disposition de la nouvelle loi ne sera pas opérationnel. Donc, nous avons intérêt à être sévères envers nous-mêmes contre tout ce qu'il y a comme dérive, les atteintes aux droits d'autrui, les insultes, la diffamation, les partis pris systématiques. Vous avez des journalistes qui sont confondus à des hommes politiques et ça, c'est pas sain. Donc, ce sont ces questions-là qui doivent être traitées avec la plus grande rigueur dans les jours et dans les semaines qui suivent.
Nous le considérons comme votre dernier mot, Israël Moutala. Nous rappelons que vous êtes promoteur de 77.cd et président de l'association des médias d'information en ligne de la RDC. Merci d'avoir été avec nous dans cette deuxième tranche d'Okapi Service. À la prochaine occasion. Au revoir.
Au revoir.
C'est par ici que prend fin au Capi Service que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo était à la coordination de ses numéros et Jean-Noël Mokondo s'est occupé de la prise des sons. Les rendez-vous sont pris pour demain pour un nouveau rendez-vous d'Okapi Service. Entre-temps, excellentes conditions d'écoute du programme de Radio Capi.